Donc Elise Mark Beckham, donc qui est en instance, j'espère, d'obtention d'un contrat doctoral, puisque son audition a lieu demain. Donc voilà, vous êtes notre plus jeune doctorante, prédoctorante, on va dire, mais je me suis dit que ça valait vraiment la peine, ça tombe très bien, c'était pas du tout prévu que votre audition avait lieu demain. Donc voilà, tous les encouragements sont là, bien sûr, dans cette perspective. Et je suis ravie de vous donner la parole pour présenter votre projet, donc du coup de thèse, qui j'espère pourra se concrétiser très rapidement dans la foulée. Voilà, vous êtes par ailleurs enseignante en lycée actuellement, certifiée, admissible à l'agrégation, on se réjouit beaucoup. Malheureusement, bon, pas pour l'instant encore agrégé, mais ça ne saurait tarder. Merci de votre présence aujourd'hui aussi, dans ces conditions. Et je vous cède tout de suite la parole, Élise.
Bonjour à tous, on m'entend bien ?
Très bien.
Très bien, très bien. Oui, alors je commence par vous remercier de m'accueillir au cœur de la journée de recherche et donc de me donner la parole afin de présenter mon projet de thèse. Je vous remercie de me permettre de m'entraîner. Et je me réjouis d'accueillir évidemment toutes vos remarques. Alors donc mon projet de thèse s'intitule « Ce que la philosophie de Maurice Merleau-Ponty apprend de la peinture de Paul Cézanne ». Le travail de Merleau-Ponty frappe par son ouverture à d'autres formes de pensée et se distingue par un rapport spécifique à la peinture et au peintre Paul Cézanne. Ce projet de thèse se donne l'ambition d'explorer la profondeur de ce lien. Je pose en effet l'hypothèse que la philosophie merleau-pontienne gagne véritablement à être comprise à partir de l'espace de pensée déployé par la peinture de Cézanne. C'est à l'aune d'une enquête phénoménologique sur la perception, c'est-à-dire d'un travail qui privilégie le dévoilement, la description et l'analyse de l'expérience immédiate du monde en tant que phénomène vécu, que Merleau-Ponty reconnaît à la peinture un privilège indéniable. Ainsi, on pourra se demander en quoi la peinture permet une expérience directe des choses et en quoi cette expérience est bel et bien philosophique. C'est par le prisme méthodologique d'un échange de services que le peintre redonne la vue au philosophe et que réciproquement, la philosophie de Merleau-Ponty restitue à la peinture sa vraie dignité et sa vraie place dans l'ordre de la pensée. Il est rare de lire un philosophe témoigner d'une si profonde confiance en l'intelligibilité propre de la peinture. Et donc, mon travail aura comme première ambition de recherche de restituer toute l'originalité de cette dynamique co-générative et transdisciplinaire, la peinture inspirant la philosophie et la philosophie éclairant la peinture. Les peintres qui peuplent l'œuvre de Merleau-Ponty sont nombreux, Henri Matisse, Paul Klee, Georges Braque ou encore Henri Michaux. Mais si l'on y regarde de plus près, la majorité des peintres que je viens de nommer revendiquent une paternité cézannienne. Par ailleurs, Cézanne est le seul peintre présent dans toutes les grandes œuvres de Merleau-Ponty, et c'est également le seul artiste à qui il dédie un article entier qui s'intitule « Le doute de Cézanne ». Il est aussi frappant de constater que l'intimité avec l'œuvre du peintre est bien présente et mise en lumière par Merleau-Ponty lui-même dès le début de son œuvre. Donc lorsqu'il s'agit d'évoquer les grandes lignes de son travail à venir dans des causeries qu'il a données à la radio, Merleau-Ponty fait jouer une place remarquablement importante à Cézanne et confesse se reconnaître parfois davantage dans sa peinture que dans le travail par philosophe. Mon travail aura donc pour deuxième et principale ambition de justifier l'hypothèse de recherche selon laquelle la restitution du rapport que noue Merleau-Ponty avec l'œuvre de Cézanne vivifie de manière novatrice l'interprétation d'une philosophie dont on peut aujourd'hui avoir l'impression à première vue qu'elle nous a déjà tout dit ou dont on peut prendre les résultats pour acquis. Il s'agira ainsi de restituer sa pleine signification à ce geste radical et inédit d'ouverture de la pensée à cette autre qu'est la peinture, en montrant que lire l'œuvre merleau-pontienne à travers le prisme cézannien permet d'éclairer de manière vraiment nouvelle les enjeux de cette philosophie. Alors pourquoi cet éclairage est-il donc si nouveau ? La rencontre entre Merleau-Ponty et Cézanne a été très peu étudiée jusqu'à ce jour, et lorsque Cézanne est travaillée, c'est toujours par rapport aux dernières œuvres du philosophe, donc c'est-à-dire Le visible et l'invisible ou L'œil et l'esprit. Ainsi, il y a donc un présupposé fort de la recherche merleau-pontienne, selon lequel la proximité avec Cézanne ne serait qu'une réalisation tardive et circonstancielle. Mon hypothèse de travail vise précisément à établir que le point de rencontre entre le philosophe et le peintre se situe bien plus tôt et que l'influence du peintre est semblable à une source sous-jacente dont la vivacité et l'élan irriguent toute l'œuvre. Certes, Merleau-Ponty n'est pas le seul phénoménologue à s'intéresser à Cézanne, mais ce qui me semble inédit, c'est plus particulièrement la durabilité et la stabilité dans sa relation au peintre. Martin Heidegger travaille aussi sur Cézanne à la fin de sa vie, mais ce n'est qu'après coup que le penseur allemand réalise l'intimité des rapports que sa pensée entretient à cette peinture, comme une parenté inconsciente, tandis que je formule l'hypothèse que Merleau-Ponty s'engage dès l'origine de son œuvre dans un compagnonnage philosophique conscient avec le peintre. Faire de cette hypothèse une certitude objective nécessite de s'aventurer au-delà de la seule lecture de l'œuvre publiée. Cette hypothèse justifie un travail de fond à partir des archives non publiées du philosophe à la BNF, dans l'optique d'un défrichage complet des modalités de cette relation. À ce jour, en effet, toute l'œuvre de Merleau-Ponty n'est pas encore publiée. Je tirerai un grand bénéfice de la consultation de ses notes de cours ou de sa correspondance afin de recenser l'ensemble des expositions de peinture de Cézanne auxquelles le philosophe s'est rendu. Cézanne, par ailleurs, est aussi le peintre sur lequel Merleau-Ponty s'est le plus amplement documenté, en lisant les écrits et propos du peintre lui-même, mais aussi en travaillant les historiens d'art. À ce titre, je fais l'hypothèse à confirmer que les archives merleau-pontiennes groupent un ensemble de notes de lecture autour de Cézanne qui sont encore, à ce jour, inconnues. En ce qui concerne les porosités philosophiques proprement cézanniennes qui jalonnent l'œuvre de Merleau-Ponty, je peux d'ores et déjà mentionner, à titre de piste de travail, plusieurs points importants qui structurent l'œuvre et qui demanderont une exploration systématique. Premièrement, une nouvelle théorie de la perception à l'ancrage cézannien. Le philosophe commence en effet la phénoménologie de la perception, son premier livre, avec ce constat: l'homme a désappris à voir. L'analyse causale et l'explication rationnelle n'ont fait qu'obscurcir la vision des choses mêmes, alors que le voir sur nature de Cézanne promet une expérience phénoménologique du monde vécu sensible. Il s'agit ainsi de suivre une nouvelle logique, celle qui, à même le sensible, permet d'en dégager l'harmonie et la cohérence des rapports. En ce sens, Cézanne permet à Merleau-Ponty de mettre en question les principes idéalistes de l'ontologie cartésienne, ce que le peintre appelle la logique du cerveau, et de retrouver le face-à-face originaire avec le monde primitif à travers le déploiement de la logique brute des sensations vécues. Ainsi, donc, le monde n'est plus un objet, ça n'est plus une entité abstraite construite par le regard froid de l'esprit rationnel, distinct du corps et de son existence sensible. Chez Merleau-Ponty comme chez Paul Cézanne, le monde devient motif, c'est-à-dire qu'il doit nous émouvoir pour se dévoiler dans sa plus ample vérité. L'émotion de la nature est réinstituée comme critère de la perception vraie. L'homme est investi dans les choses, et réciproquement, les choses sont investies en lui. Ce que Cézanne déclare de façon lapidaire dans ses conversations, « il faut que le paysage se pense en moi », Merleau-Ponty s'attache à le développer dans le cadre du travail sur l'entraînance charnelle de celui qui perçoit et du motif perçu, entre appartenance qui ouvre un espace où le monde se donne à l'état naissant, en amont de toute opération réflexive de représentation par un sujet pensant. Mais deuxièmement, l'espace pictural configuré par Cézanne n'est pas pour autant dénué de logique. C'est précisément la découverte merleau-pontienne la plus saisissante à propos de l'œuvre du peintre. Le monde perçu immédiatement par notre sensibilité a sa cohérence propre. Selon les mots de Cézanne, il y a une logique des sensations organisées. Ainsi, même si le peintre ne représente pas scientifiquement les différentes imbrications des différentes plaques qui ont constitué le relief de la montagne Sainte-Victoire, il obéit pourtant à une logique parfaitement cohérente, celle de l'organisation des couleurs perçues. Enfin, la mise en évidence de la présence cézannienne au cœur de la philosophie merleau-pontienne dès son origine me permet de poser une question encore inédite dans la recherche. Comment évolue le rapport du philosophe à Cézanne? Il semble que loin de stagner, il gagne en élan, notamment par le constant renouvellement des sources dont le philosophe s'instruit. Par ailleurs, dans la deuxième moitié de son œuvre, Merleau-Ponty se lance très significativement dans l'approfondissement spécifique d'une partie encore mal connue de l'œuvre de Cézanne, mais d'une importance majeure, ses aquarelles. Ma troisième et dernière piste de recherche est donc la suivante. Le mouvement continu, flottant et symphonique des plans de couleurs des aquarelles cézanniennes, qui se recouvrent, s'empiètent, s'avancent et reculent librement, permet à Merleau-Ponty de porter à son plein épanouissement sa pensée de l'espace érotique et musical qu'il désigne à la fin de sa vie par l'expression de chair du monde. J'aurai donc pour dernière ambition de montrer que la notion merleau-pontienne emblématique de chair a pour paradigme l'armature sensible des aquarelles de Cézanne. En somme, ce sujet nécessite un plan de travail précis. Dans un premier temps, il faudra faire la preuve de sa légitimité en donnant une assise objective et scientifique à la relation. Une fois cette assise établie, il conviendra de mettre en évidence les porosités entre deux modalités de pensée à première vue hétérogènes, et ce, en suivant la continuité du travail de Merleau-Ponty, afin d'y discerner les évolutions, ruptures, changements, continuités et approfondissements du rapport. Il s'agira aussi de montrer comment la phénoménologie de Merleau-Ponty permet aux acquis picturaux de Cézanne de gagner une portée philosophique et comment l'œuvre du philosophe trace alors le chemin d'une nouvelle pratique de l'histoire de l'art, une pratique phénoménologique située au contact des œuvres et de la parole des artistes. Je vous remercie de votre attention.
You are now unmuted. Merci beaucoup Élise. Ça donne une idée de la manière dont vous allez procéder demain, n'est-ce pas? Personnellement, je trouve que c'est très clair. Je fais juste quelques petites remarques histoire de voilà que ce soit utile aussi pour vous pour demain, et puis après on pourra prendre un peu de temps aussi pour des questions évidemment plus larges. Donc vous êtes tous conviés en tant que jury potentiel les uns et les autres à interroger Élise, qui a donc en fait 10 minutes pour présenter, pour rappeler le contexte, et ensuite 10 minutes d'échange, de questions. Donc je pense, j'ai rechronométré, j'avais pris un petit peu de temps pour vous présenter, donc je pense qu'il faudrait défalquer ce temps. Mais je pense que vous êtes un tout petit peu trop, vous avez dépassé. Ouais.
D'accord.
Je pense qu'il faut, alors c'était bien dans le débit, je pense que c'est bien parce qu'on vous suit bien, c'est posé, vous avez bien rythmé votre propos, enfin c'est clair. Il me semble que peut-être là où vous pouvez gagner un peu, c'est quand vous présentez votre première hypothèse, votre première piste à propos de la logique du sensible. C'est un peu long. Enfin, je pense que c'est connu.
Oui.
Enfin, bon, c'est peut-être pas connu de tous les membres de la commission parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de philosophes, mais en tout cas, c'est des thèses qui sont quand même connues, même des littéraires, je pense. Donc, vous pouvez peut-être raccourcir, gagner deux phrases là, histoire de pas être prise par le temps, parce qu'il faudrait pas qu'il vous interrompe au bout de, vraiment avec le couperet, enfin, ce serait dommage. Et ce serait un mauvais signal, quoi, de toute façon. Donc je pense que si vous coupez deux, trois phrases là, pour synthétiser, vous devriez arriver à être dans les temps, quitte à accélérer un tout petit peu le débit à certains moments. Enfin, je pense qu'on perd pas trop. Enfin, c'est très clairement formulé. Donc voilà, ça, c'était juste ma remarque. Et puis peut-être une remarque aussi, vous dites, quand vous dites que Merleau-Ponty, son premier livre, c'est La phénoménologie de la perception.
Ah oui, non, ouais.
Prenez garde, parce qu'en fait, on va vous dire, il n'a rien écrit avant, enfin, et la structure du comportement. Bon, donc oui, dites plutôt, son premier livre majeur, enfin, vous pouvez le moduler. Après, peut-être qu'on vous demandera, on vous posera peut-être une question en vous disant, mais il n'a vraiment rien écrit avant, à ce moment-là, bon, voilà. N'oubliez pas de mentionner la structure du comportement. Ça m'est venu en vous écoutant, je n'avais pas du tout ça en tête avant, mais voilà, ça peut être... Et peut-être aussi, du coup, ça me fait penser à une question qu'on peut vous poser. Parce que quand on... notamment pour ce qui est de la première hypothèse, à nouveau, enfin, la première piste, on peut se dire, mais en fait, qu'est-ce que Cézanne apporte ici à Merleau-Ponty? Puisqu'en réalité, dans ce qu'on connaît de la philosophie de Merleau-Ponty, c'est assez standard, cette première piste. Donc là, il faudra que vous arriviez à justifier le fait que peut-être il y a une hypothèse sous-jacente qui est que... y compris cette logique du sensible, elle est peut-être davantage imputable à Cézanne qu'on ne l'a jamais pensé. Vous voyez, enfin, donc là, il faudra réussir à retourner à votre bénéfice une question qui pourrait être, mais finalement, au fond, pourquoi Cézanne? Parce qu'en réalité, Merleau-Ponty, il a déjà formulé les choses comme ça. Donc, à quoi bon? Qu'est-ce que Cézanne apporte de nouveau par rapport à une théorie de la perception qui est celle qu'on connaît chez Merleau-Ponty? Mais vous voyez, mais à l'inverse, en réalité, est-ce que c'est pas précisément parce qu'on n'a jamais véritablement pris en compte Cézanne qu'on a peut-être que l'impact de Cézanne est plus fort qu'on n'a jamais pensé, mais comme on l'avait sous-évalué, sa présence, ben forcément, il n'a jamais été pris en considération. Donc, voilà, à vous d'essayer de retourner l'argument dans l'autre sens, hein, si jamais la question vous est posée, ce qui est possible à l'écoute de votre propos. À mon avis, ça peut être une question qui émergerait. Enfin, voilà. Et du coup, on est en retard, mais c'est pas grave, encore une fois. Donc, s'il y a des questions, vraiment, c'est le moment, ou des remarques, ou des retours, toujours bénéfiques. Soit dans le chat, si vous n'osez pas prendre la parole en direct, en direct.
Bonjour, moi.
Oui, Al.
Ah, pardon.
Non, ça va. On t'entend bien, il n'y a pas de souci. Hein.
Oui, pardon, désolé pour la latence. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans votre travail, dans ton travail plutôt pour sortir du vous, c'est d'approcher l'hybridité dans le sens où, moi j'en parlerai cet après-midi, des nouvelles formes de création et de recherche et de création allient justement recherche et création. Le doctorat que je fais est concentré là-dessus. Et s'intéresser au rapport entre, qui est plus ancien que le milieu du XXe siècle, mais entre un philosophe et un artiste me semble, établir une filiation bien plus ancienne qu'on peut le croire à justement le lien dans les deux sens entre recherche universitaire et création. On parle maintenant d'interdisciplinarité et c'est ça qui m'intéresse beaucoup puisque je trouve que la pensée française universitaire a tendance à cloisonner et à séparer exclusivement les deux qui ne doivent pas se rencontrer. Je parle du processus de création et du processus de recherche universitaire. Donc, c'était juste une remarque, pas du tout une question.
Ouais, merci pour ta remarque. Et c'est vrai que à mesure que l'œuvre de Merleau-Ponty avance, c'est de plus en plus pertinent. Ta remarque est de plus en plus pertinente puisque son travail est d'une certaine manière de moins en moins philosophique, de plus en plus ressemblant de plus en plus au poème. Et donc là, en fait, c'est difficile de le classer à ce moment-là de son œuvre, en tout cas de le classer dans la philosophie.
à fait. Tout à fait. Et peut-être que justement, enfin, je crois que c'était un élément que je vous indiquais aussi dans le mail que je vous envoyais. Ah ouais, on n'entend pas du tout. Ah, excusez-moi, on n'entendait pas. Oui, donc ça me fait penser aussi effectivement un point qui pourrait être intéressant peut-être à développer si la question se pose pour vous demain, pardon, concernant comment dire, la manière dont non seulement Merleau-Ponty s'empare de Cézanne et le fait fructifier, mais comment dire, comment la pratique même du peintre, alors dans l'autre sens, éventuellement, puisque vous avez au départ joué sur beaucoup de réciprocité entre les deux gestes, mais en réalité votre thèse elle est quand même davantage tournée vers la façon dont Merleau-Ponty se trouve impacté par Cézanne que l'inverse. Donc, je pense que là ce serait aussi intéressant d'avoir peut-être des éléments de réponse éventuels à des questions qui pourraient être formulées par des littéraires, peut-être pas par des artistes peintres parce qu'il n'y en aura pas dans la commission. Sauf peut-être à titre de hobby, mais bon, je ne sais pas s'ils se situeront sur ce terrain. Mais en tout cas, voilà, qui pourrait vous demander, mais au fond, qu'est-ce que la pratique picturale de Cézanne retire ou retirerait d'un investissement philosophique, phénoménologique, à titre d'hypothèse d'école. Mais si les deux pratiques sont à, comme vous l'avez dit, à penser de manière co-générative. Le terme cogénératif, il est très fort parce qu'il indique justement que les deux entrent en relation mutuelle et s'enrichissent mutuellement. Donc il faudra, voilà, peut-être vous justifier aussi du fait que vous allez quand même accentuer davantage un des versants de la générativité par rapport à l'autre, et vous avez le droit. Vous n'êtes pas censé nécessairement faire droit aux deux de la même manière, mais voilà, ce sera en tout cas intéressant à peut-être à préciser ou à redélimiter. Si jamais la question se pose.
Oui.
Je pense que c'est bien de garder le terme de cogénérativité, c'est pas gênant. Enfin, à la limite, vous tendez une perche pour une question, mais ayez bien la réponse présente à l'esprit, et de façon à être capable d'indiquer que on peut vous poser la question, est-ce que finalement, vous avez une pratique picturale qui vous permet d'entrer dans la pensée de. Enfin, dans la pratique même de Cézanne. Enfin, et ça peut être aussi des questions qu'on. C'est la remarque de Dalle qui me fait penser à ça, parce qu'effectivement, dans sa thèse, pour ce qui le concerne, lui, évidemment, il est sur les deux versants, du fait de sa double posture. Donc, on peut vraiment vous poser cette question, je pense.
Oui. Et puis, c'est une question d'autant plus intéressante que Merleau-Ponty. On se peut se poser la question aussi pour Merleau-Ponty lui-même.
Tout à fait.
Quel rapport il entretient à l'œuvre de Cézanne, c'est assez mystérieux.
Oui, quelle est sa pratique, alors justement pas picturale, mais est-ce que ça se transpose sur le terrain justement de la matière du langage? Vous voyez, enfin, justement de cette évolution que vous décriviez, qui serait plus qui irait dans le sens vraiment d'une réflexion, enfin d'une attention au langage qui l'amène à développer. Un certain registre métaphorique, enfin, qui évidemment est de plus en plus présent, plus ça va. Donc, est-ce que ça se transpose littérairement? Vous voyez, enfin, ça c'est des questions bon, qui ne sont pas forcément au centre de votre propos, parce que votre propos n'est pas centré sur le langage en tant que tel. Mais comme vous allez avoir une commission constituée de beaucoup de littéraires, je pense que ça peut vraiment être l'objet d'une question. Donc vous avez le droit de ne pas tout traiter et vous avez le droit d'en profiter pour délimiter votre sujet à nouveau, en indiquant que ce sera pas votre objet en majeur. Mais voyez par exemple, en étant très ouverte, en disant bah, pourquoi pas, ça pourrait être, enfin, peut-être que c'est cette question, votre question me fait penser à cette piste effectivement qui pourrait être intéressante à explorer en tant que telle. Et enfin, tâchez de vraiment de vous positionner en rebondissant à chaque fois sur les questions, comme on disait,
D'accord, oui.
et sans être trop prise de court, enfin, essayant de pas, en tout cas, montrer que vous êtes prise de court si vous l'êtes, ce qui peut arriver, bien sûr. D'accord, donc Marie-Aimée doit nous laisser, elle revient. Très bien, donc on va. Merci encore, Elise,
Merci
pour
à vous.
cette présentation.